Bonjour à tous, je suis Caroline Nogueras et je suis ravie de vous annoncer que le podcast Histoire vraie, les notaires vous racontent, rejoint l'aventure du podcaston. Les notaires de la Cour d'appel de Caen ont décidé de mettre en avant l'association Habitat et Humanisme. Dans un épisode spécial, Maître Philippe Gaudron vous racontera l'histoire de ses clients Alain et Dominique, un couple au grand cœur. Alain et Dominique ont également accepté de se prêter au jeu de l'interview. Ils témoignent également dans cet épisode et vous donneront, on l'espère, envie vous aussi de faire un don à l'association Habitat et Humanisme. Alors ne ratez pas cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent en collaboration avec le podcaston.
Alors je m'appelle Hélène Courroy, je suis notaire à Thury-Harcourt. Donc c'est une petite commune de 2000 habitants au sud de Caen, 25 km en Suisse normande.
Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras.
Alors c'est l'histoire de Bertrand et de Julie que je rencontre à l'étude un vendredi soir au mois de septembre, donc dernier rendez-vous de la semaine. On est plus détendus, hein, eux et moi. Julie, c'est une femme qui est petite, blonde, très dynamique, très pétillante, vraiment très très agréable. Le contact passe tout de suite entre nous. Bertrand, il est plus réservé, mais un beau sourire charmeur. Ils semblent vraiment très unis et très bien ensemble. C'est Bertrand qui prend la parole. Il m'explique qu'ils sont en couple depuis 15 ans. Il a rencontré Julie alors qu'il était marié. Ils se sont rapidement installés ensemble. Julie a très rapidement également contribué à rembourser l'emprunt de la maison dans laquelle il vivait. Son épouse était partie. Il s'est passé quelques années pour que son divorce à lui soit régularisé. Et c'est grâce à Julie qu'il a pu faire un nouveau crédit pour payer à son ex-femme la somme qui lui était due et conserver la maison. Donc voilà la situation. Julie et Bertrand payent ensemble un crédit depuis 15 ans et Bertrand souhaite absolument que Julie devienne propriétaire avec lui de la moitié de la maison. C'est sa préoccupation principale.
Julie paye, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un contrat entre eux, des preuves du paiement ?
Justement, il n'y a pas de contrat. Alors Julie fait un virement sur le compte de Bertrand, le compte où est prélevé l'emprunt par la banque. Mais il n'y a pas d'autre preuve que ce virement sur le compte de Bertrand. Et il se tourne vers moi pour savoir quelle solution juridique on pourrait mettre en place. Donc je leur explique que Bertrand peut vendre la moitié de la maison à Julie. Alors elle n'aurait pas de prix de vente à payer puisqu'elle a déjà rembourser la moitié du crédit et puis elle va s'engager à payer la moitié du reste du crédit jusqu'à la fin. Il restait encore 10 ans de crédit à payer. Il était également possible qu'il se marie et que Bertrand apporte la maison à la communauté dans un contrat de mariage. Cela permettait de résoudre le droit de propriété de la maison, ils en seraient devenus propriétaires tous les deux, et puis de les protéger, parce que Bertrand et Julie n'étaient que concubins. Il n'y avait aucun lien juridique qui les unissait.
Ni pacsé, ni marié.
Ni pacsé, ni marié. Donc même la vente n'aurait pas résolu la protection en cas de décès. Et puis à minima, je leur dis qu'il faut quand même obligatoirement faire une reconnaissance de dette pour avoir un contrat qui constate que Bertrand a une dette envers Julie, qui rembourse la moitié du crédit de sa maison. Se pose en fin de rendez-vous la question des frais, combien ça coûte de faire tout ça? Comme il s'agit d'un bien immobilier, il faut transférer la propriété d'un bien immobilier qui appartient à Bertrand et Julie, donc il faut évaluer la maison. Donc c'est une très belle maison, la valeur est assez importante, et donc moi tout de suite je sais que les frais pour ce qu'ils souhaitent faire, vont être importants.
On a une fourchette des frais ? C'est quoi important dans ce genre de maison ?
Il y a des droits de mutation, d'enregistrement. Donc sur une maison qui vaut 350 ou 400 000 euros, il y a des frais qui sont près de 10 000 euros.
Qu'ils ne sont peut-être pas prêts à mettre à ce moment-là.
Qu'ils ne sont pas prêts à payer. L'apport à communauté, mais ce qui sous-entend de se marier, sont des frais beaucoup moins importants. On était de l'ordre de 2500 à 3000 euros pour l'apport à communauté. Donc, ils m'ont dit qu'ils allaient réfléchir et qu'ils allaient me recontacter très rapidement. Et effectivement, très rapidement, 2-3 jours plus tard, je reçois un mail de Bertrand qui me demandait de préparer la reconnaissance de dette. Il souhaitait absolument que s'il arrivait quelque chose, Julie puisse au moins récupérer l'argent qu'elle avait versé et qui lui avait permis à lui de conserver la maison. Le mail que je reçois, c'est un vendredi soir également, juste avant un pont, le pont de la Toussaint, et à la réouverture de l'étude, le mercredi matin. Premier coup de téléphone à 9h, c'était Julie en pleurs, complètement désespérée. J'avais du mal à comprendre ce qu'elle me disait. Elle était en train de m'apprendre que Bertrand était décédé le week-end en poussant le caddie dans les rayons du supermarché. Crise cardiaque. Bertrand avait 53 ans. Rien ne laissait penser qu'il pouvait décéder aussi subitement. Julie était beaucoup plus jeune, elle avait 40 ans, mais c'est vrai qu'entre eux, la différence d'âge ne se voyait pas. Donc elle est désespérée, puisqu'elle habite la maison de Bertrand, avec sa fille qui a 17 ans, qui habitait avec Bertrand depuis qu'elle avait 2 ans, donc c'était vraiment leur foyer. Mais la maison ne lui appartenait pas.
Donc au-delà du chagrin de cette femme, que craint-elle à ce moment-là ?
Elle craint tout simplement de devoir partir. Elle n'avait aucun droit à rester dans la maison. Et effectivement, les choses ne se font pas attendre. Bertrand avait eu 3 filles avec son ex-femme. Quelques jours après le décès, les filles de Bertrand demandent à Julie de quitter la maison. Elle leur a quand même demandé d'attendre qu'elle trouve un autre logement. Et les filles lui ont dit, dans ces cas-là, tu verses un loyer. Alors qu'elle continuait à rembourser l'emprunt. Julie est venue me voir à l'étude quelques jours après le décès pour savoir à quoi s'attendre. Et là, elle m'a dit quelque chose qui m'a énormément marquée. Parce que c'était la compagne de Bertrand, donc elle a essayé d'entamer les démarches nécessaires après le décès. Elle a contacté la banque, puisqu'elle remboursait toujours l'emprunt. Elle a contacté les assurances, elle a contacté l'employeur. Et à chaque fois, la porte s'est fermée. On lui a demandé, mais qui êtes-vous ? Le conjoint ? Non. Le partenaire pacsé ? Non. Eh bien, vous n'êtes rien dans la succession. Vous n'êtes pas héritier. Et elle m'a dit, c'est comme si notre vie, 15 ans de vie commune, n'avait pas existé. Quelques semaines se sont passées, la maison a été mise en vente très vite. La succession de Bertrand a été ouverte par ses filles chez l'un de mes confrères. Les mails que je fais à mon confrère restent sans réponse, à savoir si les filles de Bertrand acceptaient de reconnaître la dette envers Julie. Est-ce que Julie allait pouvoir récupérer cette somme d'argent, sachant qu'on n'avait pas signé de reconnaissance de dette. Bertrand m'avait demandé de la préparer, mais il est décédé 3 jours plus tard. Et j'ai pas de réponse. Donc j'imagine que ça va être compliqué pour Julie de récupérer l'argent qu'elle a versé pour la maison. Donc lorsque la maison est mise en vente, on trouve un acquéreur très rapidement, hein, c'était une très belle maison. Donc une promesse de vente est signée. Et à ce moment-là, je conseille à Julie d'aller voir un huissier. L'huissier devait faire une saisie conservatoire de créances, c'est-à-dire mettre de côté le prix de vente de la maison, qu'il ne soit pas versé aux filles de Bertrand, dans l'attente du règlement de cette créance, soit amiable, soit judiciaire. On aurait signé un acte de reconnaissance de dette Julie aurait eu un titre exécutoire, c'est-à-dire que l'huissier aurait pu de lui-même délivrer cette saisie conservatoire à mon confrère. On n'avait pas d'acte notarié. Donc il fallait que l'huissier soit autorisé par le tribunal à délivrer cette saisie conservatoire. Donc l'huissier dépose une requête au tribunal. Et contre toute attente, la requête est rejetée. Le tribunal nous indique que les sommes versées par Julie pouvaient correspondre à une participation aux frais courants ou aux frais d'entretien.
Alors dans quel état elle se trouve Julie à ce moment-là ?
Elle est catastrophée et je l'informe qu'elle n'aura pas d'autre solution que d'entamer une procédure judiciaire à ses frais pour faire reconnaître sa créance par le tribunal. Et dans la mesure où le prix de vente n'aura pas été mis de côté pour régler cette créance, si les filles de Bertrand, malgré que le tribunal les condamne à payer à Julie, si elles ne s'exécutent pas, il faudra les poursuivre en paiement. Et si le prix de vente a été dépensé, c'est toute la difficulté pour être payé d'une créance constatée par le tribunal. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que Bertrand est décédé. La procédure judiciaire n'est toujours pas arrivée à son terme. Julie n'a toujours pas été remboursée des sommes qu'elle a payées pour que Bertrand puisse conserver sa maison. La maison a été vendue par les filles de Bertrand et ce sont elles qui ont encaissé la totalité du prix de vente. Julie, elle n'a fait que payer. Ce qui fait mal, c'est encore une fois de savoir que les choses se passent en contradiction totale avec les souhaits et la volonté de la personne qui est décédée. Donc je parlerai de précarité juridique du concubinage. Lorsque un couple acquiert un bien immobilier ensemble ou qu'ils vivent dans une maison qu'il n'appartient qu'à l'un des deux, qu'il y a une interaction financière, qu'ils payent tous les deux pour leur quotidien, il est indispensable de se renseigner, de venir chercher les informations. Il y a des solutions juridiques, mais il est absolument nécessaire de prendre les choses en main et de se renseigner. Quand on n'a rien prévu, c'est la loi qui impose et on ne peut plus changer les règles de la succession.
Hélène, à titre personnel, en quoi cette histoire t'a profondément touchée ?
Alors cette histoire m'a profondément touchée parce que déjà on avait un lien particulier avec ce couple que je trouvais très très sympathique. Et avec Julie on avait le même âge, j'aurais pu être à sa place. Et voilà, je les avais beaucoup beaucoup appréciés et ça m'a fait vraiment vraiment très mal de voir Julie dans cette situation-là.
Merci beaucoup Hélène pour ce témoignage.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Jusqu'où un notaire est-il prêt à aller pour aider ses clients ? Maître Romain Lecordier n'a pas hésité à traverser l'Atlantique, mais pour quelle raison ? Une histoire incroyable à découvrir dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce podcast, sur vos plateformes d'écoute préférées et à en parler autour de vous.